Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. La foudre, comment se protéger de la foudre, c'est le sujet qui va être abordé tout à l'heure avec Chari Kabia, il est physicien, il est déjà en ligne. Chari Kabia, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes physicien et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va parler de la foudre, comment se protéger. En RDC, il arrive souvent que la foudre cause des dégâts. Dans bien des cas, les foudres surviennent en saison des pluies. D'après les experts, la foudre est un phénomène naturel alors qu'il y a plein d'idées reçues par rapport à la foudre. Alors expliquez-nous, Chari Kabia, c'est quoi la foudre?
Bon, la foudre, en fait, c'est un phénomène naturel. Des décharges électrostatiques. Disons que cette décharge n'est pas continue, puisque j'aimerais prendre un parallèle avec les phénomènes d'éclairage que nous connaissons très bien.
Oui.
Le lampe à tube à néon, qui exploite déjà ce même phénomène-là, c'est-à-dire des décharges dans les gaz. À ce moment-là, quand on met la lampe sous tension, eh bien, on crée une décharge, mais là, la décharge est continue. Ce qui fait que on peut avoir la lumière pendant 1, 2, 3, 4 jours, ça dépend de la personne qui l'utilise. Mais par contre, pour le cas de la foudre, la décharge est originée par les phénomènes électriques dans l'atmosphère sur les nuages, ce qui fait que à ce moment-là, la décharge électrique est, comme on dit, disruptive, ça signifie que c'est interrompu.
Voilà, donc c'est un phénomène naturel lié à une décharge. Lié à une décharge électrique.
Décharge électrique. Ouais. Bon, quand j'ai pris le parallèle avec la lampe à néon, parce que là, ça se passe dans un gaz.
Oui.
Mais les nuages, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un mélange de gaz, c'est-à-dire de l'air qui s'est mais aussi avec la poussière, des gouttelettes d'eau, des gouttelettes d'eau et puis de la glace, ce qui fait que le système est un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est le même phénomène de décharge dans la matière à ce moment-là.
Et ce phénomène de la foudre, donc c'est plus fréquent en saison de pluie?
Oui, c'est surtout dans la zone équatoriale.
Oui.
C'est surtout dans la zone équatoriale, et ça se passe en haute atmosphère.
Oui.
Et là, là où la matière est ionisée. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que pour bien expliquer ça, il faut un prérequis en électricité.
Oui.
Mais pour le commun des auditeurs, ils doivent comprendre tout simplement que c'est une décharge électrostatique dans les nuages.
Alors, qu'est-ce qui fait que des fois, en pleine journée, il n'y a pas de pluie, le ciel est clair, le ciel n'est pas gris, donc il n'y a rien qui annonce qu'il va pleuvoir.
Effectivement, ce phénomène-là ne dépend pas de la pluie.
Oui.
C'est un phénomène de décharge parce que l'origine, il y a plusieurs origines. C'est-à-dire,
oui,
disons, l'autre est un peu plus complexe. Il y a les précipitations,
oui,
et des gouttelettes qui, dans le milieu même des nuages là,
oui,
créent ce qu'on appelle l'électrisation par frottement.
Oui.
À ce moment-là, quand on a une certaine accumulation des charges dans les nuages, ce phénomène-là peut se faire dès lors que on peut avoir des ventilations, il y a des convections, des masses de bas vers le haut, il y a la formation d'un, ce que j'appellerais un condensateur pratiquement, un condensateur électrique. Et c'est ce phénomène-là qui est à la base de la foudre.
Bon,
généralement, quand il y a pluie, il y a des différences de température, des différences de pression qui créent des vents. Et à ce moment-là, cette quantité d'électricité-là se met à se mouvoir et ça crée un courant qui doit nécessairement se décharger quelque part. Et généralement, c'est en haute atmosphère que ça s'est fait. Ou ça tombe sur des objets qui sont placé à haute altitude, ou même sur des poteaux, des pylônes qui sont isolés, quoi, placés à des endroits un peu proéminents. à ce moment-là, par l'effet des pointes, c'est-à-dire que les charges négatives qui vont essayer d'influencer justement l'objet en question, et qu'il y a une accumulation des charges positives, et à ce moment-là, il y a une grande différence de potentiel qui crée l'éclair. Et c'est cet éclair-là qui est la foudre que nous connaissons.
Et alors, comment faire pour se protéger?
Bon, pour te protéger, généralement, on utilise les techniques des paratonnerres. Bon, on appelle ça paratonnerre abusivement parce que, en fait, la foudre s'accompagne toujours d'une onde acoustique, disons du son, parce que l'onde acoustique en réalité c'est le son que nous, le vrombissement que nous entendons, et ce vrombissement est un son assez assourdissant, ce qui fait que la plupart des gens ont peur plus du son que de l'éclair qui constitue justement l'essence même de la foudre.
Et en dehors d'un paratonnerre, il y a des endroits où il faut éviter de s'abriter lorsqu'il entre.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, en haute altitude, on est vraiment susceptible d'être foudroyé. Et puis, en ce moment-là, il faut éviter aussi de toucher des objets pointus qui puissent être des conducteurs d'électricité capables de capter cette foudre. Alors, à ce moment-là, on peut s'électrocuter. Donc, il faut tout simplement s'abriter. Et bon, généralement, la foudre, ça peut, parmi les dégâts de la foudre, on compte l'électrocution, mais c'est pas tellement répandu. Il y a des chiffres que vous pouvez trouver dans la littérature. Je me rappelle que je crois en France, l'année passée, c'était à peu près 15 à 25 personnes par an. Donc, vous voyez que c'est un phénomène qu'il faut éviter, quoi.
Vous avez dit qu'il faut éviter de se mettre à des endroits où vous avez parlé des objets pointus, c'est des objets qui peuvent...
C'est-à-dire pas toucher des objets pointus, qui soient des conducteurs d'électricité.
Oui.
Et puis, il ne faut pas se mettre aussi à des endroits isolés pendant quand il y a pluie. Bon, évidemment, j'ai dit que la foudre, c'est pas souvent, disons, a souvent lieu quand il y a la pluie, même avant la pluie, même quand il n'y a pas pluie, vous pouvez avoir ces phénomènes-là de foudre.
Voilà, la foudre commence à protéger. On est en train d'aborder ce sujet avec Chari Kabiya. Il est physicien. Vous voulez en savoir un peu plus sur la foudre. Comment faut-il faire pour se protéger? Vous avez des témoignages, des préoccupations. Vous pouvez nous appeler au 081-890-63-94 ou nous envoyer un SMS au 081-711-5001. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Jean-Vincent Biemolo qui nous appelle de Lomila dans les Cassons orientale et Esther Obedi qui est à Mag en province orientale. Bonjour Jean-Vincent Biemolo.
Bonjour, Radio Capi, je vais l'inviter.
On vous écoute.
Il a expliqué que la foudre est un phénomène naturel, mais j'ai un peu d'inquiétude parce que chez nous ici, pour faire comprendre aux gens que la foudre est un phénomène naturel, les gens difficiles à comprendre parce qu'il y a un problème chez nous ici. Donc, il suffit que quelqu'un aille visiter un féticheur et le féticheur fait ses gris-gris. Et même sans la pluie, la personne est foudroyée. On a plus de milliers de cas. S'il faut vous citer, ça va nous prendre toute la journée. Alors, moi, je voudrais savoir si le féticheur ou la sorcellerie ne profite pas pour rendre ce qu'il appelle phénomène naturel, phénomène sorcier, parce qu'ici chez nous, quand il y a la poudre, on ne va pas en nature, mais on va vraiment à la sorcellerie, parce que c'est connu comme ça. Il y a des gens qui sont identifiés, qui sont détenteurs de la poudre, et il fait des dégâts. Hein. Je ne sais pas si l'invité a quelque chose à dire à ce sujet-là. Est-ce que ce phénomène naturel n'a pas de rapport avec la sorcellerie africaine, s'il faut dire ainsi?
Merci Jean-Vincent Biemolo, vous appelez de Lomila dans les Kassai orientales. On va expliquer, l'invité va expliquer tout ça s'il y a des gens qui peuvent détenir le secret de foudroyer les gens. Alors Esther Oubedi nous appelle de Maïg en province orientale. Bonjour Esther.
Bonjour Marcel, bonjour à tous.
On vous écoute Esther.
Voilà. Jadis, je vivais dans une parcelle quelconque. Dans cette parcelle-là, il existait un certain arbre. Et là, je ne sais pas le nom. Je ne sais pas si l'invité, il peut être aussi au courant avec moi. Alors, le problème était que l'arbre à caisser était mal placé dans la parcelle. Alors, nous qui vivions dans cette parcelle-là, on a jugé bon de couper cet arbre-là. Mais avant de couper, on a pu quand même consulter le propriétaire de la parcelle. Et à notre grand étonnement, les propriétaires avaient refusé. Alors, nous lui avons demandé c'est pourquoi il refusait. Il nous a fait savoir que non, cet arbre-là était vraiment bénéfique pour lui et que ça jouait un rôle antifoudre. Alors, je ne sais pas si notre invité, il peut nous expliquer comment le phénomène, comment cet arbre-là peut fonctionner pour jouer ce rôle-là d'antifoudre. Et s'il peut être aussi d'accord, s'il peut nous donner le nom de cet arbre-là. Merci.
Merci Esther Obedi. Vous appelez de Maïgui en province orientale. Serge Matata, vous êtes à Kinshasa. On vous écoute, Serge.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Oui, je salue toute l'équipe de la radio Okapi, notre invité et tous les auditeurs qui nous suivent à présent. Ma question est celle de savoir, bon, je peux dire que ma question a deux volets. Le premier volet est celui de savoir, du point de vue signe ou complication, quand une personne est attaquée par la foudre mystérieuse et la foudre naturelle, puisque l'invité nous a dit que la foudre est un phénomène naturel. Mais nous savons que parmi les foudres au moins qui nous dérangent, ou qui dérangent la population, mais la population est plus exposée par les foudres mystérieuses que les foudres naturelles. C'est pourquoi je veux savoir quelles sont les complications ou les signes de la personne attaquée par une foudre mystérieuse et celle attaquée par une foudre naturelle. Deuxièmement, je veux encore savoir comment, quelle sorte de charge que possède la foudre naturelle. Il possède toutes les deux charges. Il y a phase et neutre ou comment, puisque moi, à mon aide à vivre, j'ai un peu de complications sur le phénomène foudre. Merci beaucoup.
Merci Serge Matata, vous appelez de Kinshasa. On va revenir à notre invité, nous rappelons le numéro de contact pour ce sujet, la foudre, comment se protéger. Appelez-nous 081 890 63 94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Chari Kabeya, vous êtes physicien avec vous, on parle de la foudre, comment se protéger. Vous avez suivi à tour Jean-Vincent Biemolo qui nous a appelé de Lomela dans les Cassés orientales. Esther Obedi a intervenu depuis Mayagi en province orientale et puis la vice-serge Matata Kinshasa. Alors on commence avec Jean-Vincent Biemolo qui tient Mordecus. En tout cas pour lui, vous avez parlé que la foudre c'est un phénomène naturel, mais lui dit il n'allait pas vraiment question parce qu'à Lomela ils ont beaucoup de cas où c'est plutôt un phénomène mystérieux, il y a des gens qui détiennent le secret. Et comment dire, déclencher la foudre et foudroyer à des personnes. Et qu'est-ce que vous dites à Jean-Vincent Biemelo?
Bon, merci beaucoup pour la parole et je remercie aussi l'auditeur pour la question qu'il a posée. Bon, je crois que la foudre, c'est vraiment un phénomène qui a facilité les civilisations depuis la naissance de l'humanité,
oui,
jusqu'à la compréhension de l'électricité. Mais je crois que, à mon humble avis, la foudre reste un phénomène essentiellement naturel. Dès qu'on a compris que c'était des décharges dans le nuage, on a compris l'électricité qui entoure cette situation-là, on a résolu ce problème-là de l'imaginaire des populations. Maintenant, tout ce que je peux dire est que actuellement, dans des pays développés comme les États-Unis, il y a des gens qui se spécialisent en cette matière-là. Il y a ce qu'on appelle les chasseurs de tornades, il y a des chasseurs de foudre qui vont photographier la foudre pendant des grands orages. Mais tous sont d'accord que c'est un phénomène naturel. Il y a dans l'aventure de Tintin, les sept boules de cristal, il y a une forme de foudre à boules. Je crois que c'est tous ceux qui ont lu cette aventure-là, ils connaissent de quoi je parle. Les grands chercheurs américains essayent actuellement de savoir dans quelle mesure on peut arriver à trouver un vecteur pour la foudre, mais scientifiquement parlant, ou dis-moi, logiquement parlant, on n'est pas encore arrivé à ça. Mais par rapport à notre frère qui parle de la sorcellerie, ça c'est un phénomène qui relève de la métaphysique, et en principe, je ne peux pas, en tant que physicien, donner une réponse à cette personne-là, parce que les deux dimensions ne se marient pas. Mais tout ce que moi je sais est que c'est vraiment un phénomène naturel, explicable, et la plupart des gens qui ont été foudroyés. Et ça, je passe aussi à la sœur qui a parlé de l'arbre.
De l'arbre, oui.
Effectivement, oui, effectivement, je sais que je vous ai parlé des récepteurs de foudre, ça peut être des conducteurs, ça peut être des poteaux, ça peut être des pylônes, ça peut être aussi des végétaux, des arbres. Ça dépend tout simplement parce que, en fait, pour la foudre, nous avons deux variantes, deux types. C'est-à-dire que la décharge peut aller du sol vers le nuage ou l'inverse. Et je crois qu'elle parlait plutôt du phénomène inverse, c'est-à-dire que l'éclair qui part le nuage jusqu'au sol. Ça peut frapper un arbre. Alors, si la personne a compris que cet arbre-là peut facilement être récepteur de foudre, là, il n'y a pas de problème. Mais la question est qu'il ne faut pas se mettre sous cet arbre-là. Parce qu'en ce moment-là, comme c'est de l'énergie dissipative, vous qui êtes sous l'arbre, vous êtes pratiquement aussi dans la même configuration électrique, vous devenez un conducteur. Et si vous n'êtes pas protégé, c'est pourquoi j'ai dit que par rapport à la pluie, il faut restaurer l'imperméable, parce qu'en fait, l'imperméable avec les bottes, c'est vraiment une bonne méthode de protection contre la foudre si jamais on se retrouve dans ces cas-là sous la pluie. Mais pour des plumes de foudre sans pluie, en ce moment-là, il faut tout simplement de s'éloigner des endroits de ce type-là. C'est-à-dire se retrouver à l'abri où on est sûr que la foudre ne peut pas tomber dessus. Donc, il y a les arbres, effectivement, qui peuvent capter la foudre. Et c'est là, d'ailleurs, dépend des conditions, parce qu'en fait, les charges électriques qui arrivent, qui influencent l'objet qui est censé capter, créent une électrisation par influence, et c'est l'effet des pointes dont j'ai parlé peut faire que cette différence de potentiel, quand elle est suffisante, ça crée l'éclair. Alors maintenant, pour passer au frère qui a parlé de différence entre quelqu'un qui a été électrocuté par la foudre naturelle et la foudre non naturelle. Moi, je crois qu'il n'y a que la foudre naturelle. Et dans ces cas, vous voyez, les étincelles là sont tellement énergétiques qu'ils arrivent à disséquer les molécules d'oxygène environnant la partie où la foudre est tombée. Et ces molécules d'oxygène forment ce qu'on appelle l'ozone. Vous savez que l'ozone, c'est un gaz qui de purification d'eau. Donc, c'est un gaz toxique. Et quelqu'un qui est dans cet environnement-là, à part l'électrocution, peut aussi respirer l'ozone, qui peut contribuer à sa mort, ou si jamais la décharge est assez grande, parce qu'en fait, il y a des foudres qui vous transportent des millions de volts. Et c'est capable ça peut tuer un animal, tout comme ça peut tuer un être humain.
Voilà.
Mais à ce moment-là, il faut que le médecin l'ausculte pour savoir si réellement il a respiré de l'ozone, pour savoir si réellement, et qu'il a été électrocuté. Là, on saurait que c'est la foudre naturelle. Mais l'autre type de foudre surnaturelle auquel je ne crois pas beaucoup.
Puisque vous êtes physicien, vous êtes un homme des sciences, voilà. Et on va accorder la parole à d'autres auditeurs qui sont en ligne. Il y a Namur Amigo qui nous appelle de Bukavu dans le sud Kivu. Rachel est ici au province orientale avec Déborah également aimée. On commence avec Rachel qui est ici. Rachel, on vous écoute.
Allô, bonjour.
Bonjour Rachel.
Oui, j'ai des petites questions à poser à l'invité. La première question, j'aimerais savoir vraiment, donc, le fait là d'être foudroyé, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a des gens qui interprètent des dents de France. D'autres disent que non, si vous étiez foudroyé, c'est parce que vous avez voulu ou vous lancez un foyer comment. Et la deuxième question, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Un jour, je rentrais à la maison quand il pleuvait et quand je savais devant la portail, je frappais. Il y a eu le clat de la foudre et j'étais vraiment... Donc, ça m'a fait comme si du courant là. J'étais... Ok. Bon, je ne sais pas comment vous dire, mais ça m'a fait comme si j'étais donc frappée par des courants, tout ça. Et c'était pas moi-même. La personne même qui venait ouvrir la portail pour moi, lui aussi, il a senti la même chose. Jusque là, je n'ai pas toujours pas compris cette semaine. C'était dit à quoi.
Merci Rachel. Déborah, vous êtes également ici au Province Orientale. On vous écoute, Déborah.
Oui, allô, c'est Déborah ici.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, j'ai trois questions à poser à l'invité.
Oui.
La première est de savoir qu'est-ce qu'est la foudre. La foudre est ce quoi? Et la deuxième est si une personne est foudroyée et elle a perdu la connaissance. Quelles sont les réactions qui peuvent être? Et quelles sont les réactions? La troisième est de savoir la foudre a quel impact avec l'homme.
Merci, Déborah. Aimé, vous êtes aussi ici en province orientale. On vous écoute, Aimé.
Allô?
On vous écoute, Aimé. Vous êtes en ligne. Quelle est votre question?
Oui, j'ai une question. Je voulais savoir si souvent on nous interdit de se mettre quand il pleut, surtout quand il pleut. Je voulais savoir si quelle relation existe entre l'arbre et la foudre. Parce que souvent, si on se cache sous l'arbre quand il pleut, que la question sera vite foutue. Et c'est ce que je voulais savoir, si quelle relation existe entre l'arbre et la foudre.
Merci, Aimé. Vous êtes également ici en province orientale. Namur Amigo, vous êtes à Bukavu, dans le sud Kivu. Bonjour, Namur.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour. J'ai trois petites préoccupations en ce qui concerne la foudre.
Allez-y.
L'invité ne veut pas croire à une foudre qui est peut-être envoyé par des sorciers, mais que dit-il ou qu'est-ce qu'il peut dire à tout ce qui l'entend en ce qui concerne la foudre qui parvient à arracher certains organes du corps, spécialement par exemple les sexes, l'œil. La foudre ne frappe que ces parties-là et parvient à enlever ou amputer ces parties du corps. La deuxième préoccupation est la suivante. Y a-t-il une matière que qui se trouve dans le lézard que la foudre peut chercher et qui attire la foudre? Parce que souvent quand vous êtes dans une maison avec des fentes, mais il y a des lézards, c'est facile d'être foudroyé s'il y a assez de lézards dans cette maison ou bien sous cet arbre. Et la dernière préoccupation, c'est dans la flaque d'eau. Après la pluie, si les enfants jouent, ils voient, ils peuvent être foudroyés, il y a un coq qui vole et qui peut frapper sous forme d'une foudre. Merci beaucoup.
Merci Namir Amigo depuis Bukavu dans le sud Kivu. Bruno Baonja, vous êtes à Kananga dans le Kasai occidental. Bonjour Bruno.
Bonjour.
On vous écoute Bruno.
Je voudrais tout simplement savoir si quelqu'un écoute la radio pendant qu'il pleut, est-ce que ça peut entraîner le foudroiement? Et puis... Je voudrais savoir si quelqu'un se regarde pendant au miroir pendant qu'il pleut, parce que ça peut aussi entraîner le foudroiement.
Merci à Bruno Baonza. Depuis Kananga, dans les Kasai occidentales, on revient à vous, Sharia Kabiya. Vous avez suivi Rachel qui a demandé à... qui a cherché, qui est Rachel qui nous a appelé d'Issiro, qui a voulu savoir, elle a parlé d'une expérience qui est arrivée, il était en train de pleuvoir et puis il s'est présenté devant le portail, et puis il a eu des éclairs et il s'est senti vraiment secoué, et même la personne qui venait pour ouvrir le portail, elle aimerait savoir c'est quoi ce phénomène, qu'est-ce qui s'est réellement passé.
Bon, alors, pour ce phénomène-là, je crois que je reprends un peu ce que j'ai dit dès le départ.
Oui.
C'est que tout conducteur peut attirer la foudre. Parce que ce que j'ai dit, l'effet des pointes. Le corps humain, je crois que tout le monde le sait, est aussi un conducteur qui a une certaine résistance personnelle. Ce qui fait que, et puis le fait de s'être appuyé d'avoir approché la portail,
oui.
Si c'est une portail métallique,
oui.
C'est aussi un conducteur d'électricité. Et alors, par ce phénomène d'électrisation, parce que en fait,
comme je l'ai dit, la décharge, c'est quoi? C'est un courant d'électrons qui vient, qui cherche où se décharger. En ce moment-là, et ça suit justement la, ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Alors, dès qu'il trouve des conditions favorables, je crois que c'est ce qui s'est passé à la sœur qui était tout près de la porte, et même la personne qui... À ce moment-là, j'ai dit qu'il ne faut pas toucher des objets métalliques qui sont susceptibles justement de capter la foudre. Donc, c'est en gros le lien qui existe entre les objets frappés et la foudre, en fait, c'est la décharge électrique.
Voilà.
Alors, oui. Bon, maintenant, quelqu'un a parlé de lézard, tu crois?
Oui, de lézard. De lézard. Une maison, il y a des fentes avec lézard, souvent.
Oui, moi, je crois que tout ça, c'est l'imaginaire, l'imaginaire collectif qui est d'un peuple qui peut arriver à, justement parce qu'on n'a pas encore compris les phénomènes électriques, que ça, c'est pas en profondeur. Chacun essaie d'élaborer sa théorie dessus, dire que non, parce qu'on a vu un lézard. Et moi, personnellement, je sais qu'un lézard, un être humain, ou tout ce qui peut avoir une certaine conductivité électrique peut amener à capter la foudre. Mais c'est pas parce que le lézard est là que la foudre est tombée.
Et
la foudre est tombée parce qu'elle s'est formée quelque part et qu'elle est en train de chercher l'endroit où elle est censée se décharger. C'est ça, en fait, ça. Et quelqu'un a parlé des émissions, c'est pareil. Donc, puisque la foudre a plus... Quand j'ai parlé de l'électrocution, j'ai parlé même des incendies. Bon, enfin,
oui.
Ça peut provoquer des incendies. Donc, ça crée aussi des zones de courant qui peuvent créer des interférences avec des appareils dans une maison, télévision, ordinateur et compagnie. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir les effets néfastes de ces interférences-là.
Et la Bruno qui a également parlé d'être en train de se mirer alors qu'il est en train de pleuvoir, on peut s'exposer aussi à la foudre.
Effectivement, c'est-à-dire que, comme j'ai dit que la foudre, c'est comme le courant électrique. Le courant électrique dans un réseau, si vous touchez et que vous n'êtes pas protégé, automatiquement, le courant dérive en vous, ça vous prend comme un conducteur et ça rentre dans la tête où ça va se décharger. Et même alors, même cette zone-là, pour quelqu'un qui a parlé d'électrisation du sol,
oui.
Eh bien, il y a de l'électricité statique dans le sol quand la foudre vient de tomber au point d'impact, là. Alors, quelqu'un qui marche dessus peut avoir des désagréments. Donc, en fait, c'est un phénomène naturel. Un phénomène naturel, mais qui a fasciné tellement
oui.
Les civilisations.
Il y a beaucoup d'idées à parler.
Déjà, c'est un vecteur de la foudre, ou on sait comment diriger la foudre sur quelqu'un, mais ça, la science n'est pas encore arrivée à le faire. Bon, s'il y a des gens qui le font, j'espère que ça n'a rien à voir avec le phénomène de la foudre naturelle que nous connaissons.
Et avant d'accueillir Albert Mwananga qui nous appelle de Kananga de Kassai occidental, si vous voulez bien répondre à cette question de Déborah qui voulait également savoir quelle est la conduite à tenir lorsqu'on est en face d'une personne foudroyée et puis quelle relation y a-t-il entre l'arbre et la foudre?
Bon, pour l'arbre et la foudre, je vois que j'ai déjà répondu, c'est-à-dire que la foudre peut se décharger sur un arbre, la foudre qui est un courant d'électrons, c'est-à-dire que bon, les charges négatives peuvent par influence créer des charges positives sur l'arbre en question, et si la différence de potentiel est suffisante, il y a des éclairs qui peuvent arriver et foudroyer l'arbre. Bon, maintenant, pour la personne qui est électrocutée, on va voir les signes d'électrocution, parce qu'en fait, quand vous êtes traversé par un courant, par effet thermoélectrique, c'est-à-dire l'électricité chauffe, ce qui fait que par votre propre résistance, vous pouvez avoir des brûlures. Et si jamais la différence de potentiel est grande, ça peut même amener au décès. Mais à part ça, il y a la respiration de l'ozone qui a été créée par justement l'étincelle sur l'oxygène de l'air avoisinant. Ça, on peut aussi le savoir par un diagnostic médical. Mais ça, c'est naturel.
Exactement. Oui.
Ça, c'est naturel.
Voilà, on va prendre...
On meurt de la foudre parce qu'on a été exposé. Bon, s'il y a quelqu'un... Bon, moi, personnellement, je ne vois pas les liens qui existeraient entre la foudre naturelle et quelqu'un qui prétend l'avoir envoyé. Bon.
Voilà, on va prendre Albert Mwananga qui appelle du Kananga dans le Cassa occidental. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel Ngombo, et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
À tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup, monsieur Marcel. Juste pour demander à notre invité de nous parler sur un peu la foudre artificielle qui dérange surtout ceux qui sont en conflit avec les autres, ou bien ceux qui voient le. Bon, comment l'invité peut nous parler? Parce que nous, quand je l'ai suivi, j'ai vite compris que l'invité n'est pas d'accord avec la foudre artificielle, surtout de ceux qui font le magicien et les autres là. Mais nous, nous sommes sûrs de ça. Et ça s'est fait. C'est un peu. C'est palpable, monsieur le journaliste. Alors, comment l'invité peut nous parler de ça? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et je passe un peu à la première question, monsieur le journaliste. Et quelle différence y a-t-il entre la foudre artificielle et la foudre naturelle? Et pour terminer, en fait, oui, j'aimerais tout simplement demander à notre invité pourquoi la foudre est observée toujours pendant la saison des pluies et non pendant la saison sèche. Qu'est-ce que y a-t-il des choses qui influencent que la foudre puisse se manifester pendant la saison des pluies, comment?
Merci.
Et quand il plaît, monsieur journaliste, on se dit toujours que non, il faut éteindre les téléphones. Est-ce que réellement il y a le lien entre la foudre et le téléphone ou comment?
Voilà, merci. On a compris, Albert Mwananga. Merci. L'invité va répondre à tout ce que vous avez dit. Mais nous profitons également pour lire aussi ces deux SMS. Il y a Mumbere Kibéo qui nous écrit de Kanyabayonga. Il demande si les ports de téléphone dont vous avez parlé, si les ports de téléphone ou poste récepteur pendant la saison pluvieuse sans les éteindre peut amener quelqu'un à être foudroyé. Il y a également Abdelai qui écrit de Kolwezi. Ma préoccupation est quand la foudre tombe sur un arbre, l'arbre se divise sous quelle forme? Et ici, on est sous l'arbre, quel peut être le sort? Charia et Kabia.
Bon, voilà. Je crois que il y a peut-être une petite confusion dans l'approche de l'auditeur qui a parlé de la foudre la foudre artificielle et la foudre naturelle. Moi, personnellement, je ne peux pas parler de la foudre artificielle, pas au sens du laboratoire, parce qu'on peut arriver à simuler la foudre au laboratoire en créant les conditions pour avoir des étincelles. Ça, c'est ce que moi j'appelle la foudre artificielle fabriquée au laboratoire par des physiciens ou des ingénieurs. Mais la foudre artificielle dont il fait allusion, en principe, cette foudre-là n'est pas scientifique. Et moi, j'ai préféré qu'on ne parle pas de la foudre dans ces cas-là. Vous voyez? Dans ces cas-là, c'est un peu... Et puis, je ne suis pas outillé pour parler de cette foudre-là. Donc c'est pas un fait scientifique.
Ouais, c'est bien clair.
Si ça relève de la magie, alors la magie, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. Donc, il n'y a pas d'explication.
Alors, c'est bien clair. C'est bien clair. Alors, qu'est-ce que vous dites à Montbéria qui demande si le port de téléphone ou poste récepteur pendant la saison pluvieuse, sans les atteindre, peut amener quelqu'un à être foudroyé?
Comment le port de téléphone.
Oui, ou poste récepteur. Donc,
c'est-à-dire que si on demande aux gens d'arrêter, c'est tout simplement pour éviter les interférences.
Oui.
Et puis, si le téléphone a une antenne qui sort, et que cette antenne-là peut jouer le rôle de capteur de foudre, ça peut créer des petits désagréments. Mais en fait, c'est plus pour les phénomènes d'interférence, parce que la foudre crée aussi des champs électromagnétiques qui sont des ondes des zones de courant et des zones électromagnétiques qui peuvent endommager les appareils électriques quand ils sont en fonctionnement. D'ailleurs, la navigation en souffre, l'aviation, même la navigation normale, en période de foudre, il y a des interférences qui peuvent créer des problèmes.
Voilà, Espoir qui nous écrit depuis Kindu, il écrit ceci. Est-ce qu'il y a un certain mode d'habillement pour se protéger?
Comment?
Espoir nous écrit ceci depuis Kindu. Est-ce qu'il y a un certain mode d'habillement pour se protéger? Car on nous dit qu'il ne faut jamais porter un habit de couleur rouge quand il y a des éclairs.
bon, tout ça, je crois que c'est toujours dans l'imaginaire. C'est un peu comme quand on parle de Lizarro et compagnie. Mais tout ce que je sais est que une personne peut être foudroyée, quelle que soit la couleur des habits qu'il porte.
Voilà, merci à Chari Kabia. Nous rappelons que vous êtes physicien, vous étiez notre invité pour commenter ces sujets sur la foudre et comment se protéger. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir éclairé la lanterne des auditeurs sur la foudre et la manière de se protéger.
Merci beaucoup.